Je vous souhaite la bienvenue, chers frères et sœurs, dans ce temple où vous mettez peut-être les pieds pour la première fois. Nous sommes venus ici pour rechercher la présence de Dieu. Nous sommes venus ici peut-être par curiosité. Nous sommes venus ici peut-être pour profiter de la chaleur fraternelle, écouter une parole de Dieu, méditer, que chacun de vous, quelle que soit la raison qui l'a conduit ici, se sente accueilli, se sente ici comme chez lui. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quels que soient les pas qui vous ont conduit jusque-là, la grâce, la paix, vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous lever pour d'ores et déjà nous placer devant Dieu avec le chant du répond indiqué dans le livret jaune qui figure au début du psautier « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Sans fin, je chanterai ton amour éternel. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours, et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi ? C'est l'amour qui rayonne de toi. Alors, heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. Amen. Dans notre psautier français, au psaume 42, les strophes 1, 2, 8 et 9 nous permettront de prolonger cette prière. Psaume 42, strophes 1, 2, 8 et 9. C'est l'évangile selon Jean qui rapporte ces propos que Jésus adresse à ses disciples lors du dernier repas qu'il partage avec eux. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Et souvent, nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons parfois été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, cette tâche que nous comprenions comme étant notre vocation, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs, est disponible pour ton service. Amen. Et voici une autre parole biblique qui peut être comme une réponse à notre prière. « Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Car je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. »
Thank you.
Et voici pour ce matin une manière d'exprimer notre confiance en Dieu. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue d'embellir le monde, de le faire chaque jour nouveau. Il est notre lumière et nous avons besoin de son amour comme lui aussi a besoin de notre amour. Nous croyons que Jésus-Christ est venu pour aider tout être à ne pas succomber à la peine et lui indiquer le chemin de la vie et de la joie. Il est à nos côtés que nous soyons ou non capables de le reconnaître et nous avons confiance en lui comme lui aussi a confiance en nous. Il nous a donné son esprit qui nous ressource, qui nous appelle, afin que nous ne restions pas à la marge de l'histoire, car nous croyons que Dieu établira un jour son royaume sur la terre, qu'il transformera notre monde, nous transformera nous-mêmes et que nous serons agents de cette transformation. En vue de ce royaume, il nous appelle justement à former un peuple nouveau et il nous conduira jusqu'à ce matin éternel où nous saurons reconnaître en tout visage son visage et en tout être, en tout regard, l'image de sa divinité. C'est en lui et en lui seul que nous plaçons notre foi, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire à la vie véritable. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place, frères et sœurs, pour ouvrir la Bible à la première épître aux Corinthiens. C'est notre chef de chœur, Nicolas Burton Page, qui m'a inspiré la lecture de ce chapitre qui est cher à son cœur. Et c'est donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens que je vais vous lire ce chapitre 2. C'est donc Paul qui parle, qui écrit. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Quant à l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Seigneur, ta parole est pour nous source de la vérité lors de grâce. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Le cantique 143, s'il n'est pas d'une joie exubérante de premier abord, nous permettra de prolonger la méditation de ce texte biblique. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 143 et nous nous levons, telle une croix plantée en terre. Éternel, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, si cet après-midi des visiteurs viennent pour découvrir le patrimoine architectural de notre Église, peut-être seront-ils susceptibles de vous poser la question : quel est votre patrimoine spirituel, votre patrimoine théologique ? Eh bien, à cette question, quel est notre patrimoine ? L'apôtre Paul répond : Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Alors, rien de plus normal, me direz-vous, que de placer au cœur de notre patrimoine Jésus-Christ. Il suffit de se rappeler que nous nous appelons chrétiens, et après tout, au départ, chrétien, ce fut le sobriquet que les habitants d'Antioche ont donné à ceux qui se disaient disciples de Jésus, un Jésus dont ils disaient qu'il était le Christ. Sur le papier, c'est une évidence. Nous sommes chrétiens parce que Jésus-Christ, finalement. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus nuancé que cela. Nicolas Burton Page, notre chef de chœur, me disait récemment qu'à l'occasion d'un atelier de prédication consacré à ce verset biblique, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, les personnes qui étaient rassemblées avaient finalement composé une prédication où il n'était jamais fait mention de Jésus-Christ et encore moins de Jésus-Christ crucifié. Ce qui, en soi, est une sorte d'exploit quand même. Étonnant, en tous les cas, voilà qui est extrêmement révélateur d'une forme de malaise de notre protestantisme sur cette question. Pourquoi ? Et là, je vais certainement plaider coupable, mais j'en connais quelques-uns dans l'assistance qui pourraient plaider coupable avec moi. Nous sommes quelques-uns à être certainement les champions du monde de la décrucifixion du christianisme. Et cela s'explique par une forte réaction, voire une forme d'allergie, à des discours chrétiens qui font de la crucifixion le sommet de la volonté divine, qui développe une théologie du sacrifice par lequel Dieu conduirait son Fils à la mort pour effacer la faute d'une humanité pécheresse. Ici, l'apôtre Paul rappelle que Jésus a été crucifié justement parce que les contemporains de Jésus étaient fort éloignés de la sagesse divine. Autrement dit, ils ont accompli une œuvre éloigné de la volonté de Dieu, et non pas pour satisfaire au bon plaisir d'un Dieu qui aurait eu besoin de la mort de Jésus pour que soit rétablie l'harmonie au sein du monde. L'autre raison pour laquelle nous sommes parfois les champions du monde de la décrucifixion du christianisme, c'est qu'il est quand même difficile d'envisager qu'un acte de torture, qu'une mise à mort scandaleuse, un crime contre l'être humain, puisse être érigé en centre de la foi chrétienne. Pour ma part, il est quand même peu joyeux d'envisager de porter, par exemple, un instrument de torture autour du cou. Pourquoi ne pas mettre non plus des croix dans les temples, sur le papier à lettres, voire en faire des gestes liturgiques, tant qu'on y est. Mais il y a ce verset biblique, et bien d'autres, chez Paul et dans les évangiles, qui mettent l'accent sur la crucifixion de Jésus. Nous ne pouvons pas tirer négligemment un trait sur cela et nous concentrer exclusivement sur un évangile qui serait fait d'amour et de bons sentiments. L'honnêteté nous demande de prendre au sérieux ce texte, ce qu'il dit, et d'en instruire notre théologie. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Essayer de découvrir ce que la crucifixion de Jésus peut apporter à notre compréhension de la foi chrétienne. Essayer de comprendre ce que cela fait au cœur de notre patrimoine, selon les mots de l'apôtre Paul. Alors, premier point que je note, c'est que l'apôtre Paul associe Jésus crucifié à la question du savoir. Ne rien savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ne rien savoir dans un monde qui en sait tous les jours un peu plus. Cela ressemble à une sorte d'anéantissement du savoir, comme si toutes les sciences devenaient inutiles, comme si tous les progrès finalement ne servaient plus à rien, et comme s'il suffisait de savoir Jésus-Christ crucifié pour régler tous nos problèmes, venir à bout de tous les conflits et mettre fin à tous les malheurs. Comme si la science était mauvaise peut-être même, ne rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Comme si la science nous éloignait de l'humanité, cette humanité espérée par Dieu. Comme si la science était perverse peut-être même. Mais ce que Paul récuse ici, ce n'est pas la science ou la sagesse. Ce que Paul récuse, c'est un savoir qui se suffirait à lui-même. Un savoir qui prétendrait être suffisant. Au fond, quelques siècles avant Rabelais, Paul exprime déjà que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'elle est crucifixion assurée. La sagesse des hommes que Paul récuse, c'est cette science que l'homme forge à la force du poignet, en découvrant jour après jour des forces qui sont à l'œuvre dans le monde, des forces dont il se rend maître et qu'il utilise sans se poser de questions, sans se demander si c'est utile, sans se demander si cela plaît à Dieu. À qui profite la mort de Jésus ? À Dieu ? Bien sûr que non, puisque 3 jours plus tard, Pâques viendra disqualifier la crucifixion. C'est la sagesse du monde qui conduit Jésus à la croix. C'est d'ailleurs ce que dit Paul, comme je vous l'ai rappelé. C'est la conjonction d'intérêts personnels qui a mis Jésus à mort et pas une réflexion vécue devant Dieu. Ce que la croix met en évidence, c'est la folie de la sagesse humaine quand elle est livrée à elle-même. Ce que la croix révèle, c'est le scandale que constitue une décision prise pour la seule satisfaction de mes intérêts personnels. La croix révèle l'injustice que constitue un acte dont la seule motivation est le gain que je vais en tirer. La croix, c'est donc avant toute chose un non. Un non aux logiques égoïstes. C'est un non à la mise à mort du juste. La croix, c'est un non au système de bouc émissaire. C'est un non à la loi du plus fort. La croix, c'est un non à la prétention de certains à vouloir ériger en système universel les petites combines qui les arrangent bien. C'est un non à la prétention à un savoir total et absolu qui prétendrait détenir l'alpha et l'oméga de l'histoire. C'est ce que disait la première strophe de ce cantique que nous avons chanté. La croix, c'est ce qui permet de mettre en évidence les faux dieux, les idoles. Et c'est pour cela que la croix est au cœur de notre patrimoine. C'est pour nous rappeler qu'il convient de disqualifier les discours totalitaires, les attitudes de domination, les prétentions à l'infaillibilité, toute tentative de devenir maître de l'universel. C'est le non aux idéologies qui penseraient être définitivement bonnes contre les autres. C'est un non aux modes de management qui pensent pouvoir être des manuels ultimes d'éthique. C'est l'idée selon laquelle aucune politique, aucun modèle économique, aucune théorie scientifique ne peut s'ériger en absolu. Il n'est pas de sagesse qui peut prétendre avoir le dernier mot. Autrement dit, Il n'y a pas de théorie unifiée, ni en sciences dures, ni en sciences molles, ni en quoi que ce soit d'ailleurs. Alors c'est un peu pessimiste ce propos de Paul, évidemment. On a l'impression qu'il réduit à néant toute la sagesse humaine, que tout ce que nous nous employons à découvrir finalement ne sert de rien. C'est extrêmement secondaire, accessoire. Mais Paul ne cherche pas à tout disqualifier, ne cherche pas à rayer la science de l'homme. Ce qu'il cherche, c'est à la relativiser, éviter qu'elle soit portée comme absolue. Ce qu'il s'efforce de faire, c'est de relativiser la sagesse humaine à la sagesse divine, relativiser l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Je commence par quelques exemples pour ne pas sombrer tout de suite dans la métaphysique. Prenons un groupe constitué. Choisissez ce qui vous convient comme groupe constitué. Ça peut être une église, ça peut être un syndicat, ça peut être un parti politique, ça peut être une nation, ça peut être une famille, un clan. Quand un groupe agit pour préserver les intérêts des membres de ce groupe, il agit selon une logique interne. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Un clan va agir selon une logique de clan, un parti selon une logique partisane, une classe selon une logique de classe, et dans chaque cas, le groupe n'a que lui-même pour seul et unique horizon. Et du coup, on peut dire que ce groupe se tient face à lui-même. Il est porteur uniquement de ses besoins, de ses désirs, de ses revendications, de ses intérêts. Il est seul face à lui-même, au sens strict du terme, il est dans une attitude narcissique. Il pense à partir de lui-même et pour lui-même. Eh bien, c'est là la sagesse que dénonce Paul. Elle a un autre nom, c'est le corporatisme. Ce que Paul bat ici en brèche, c'est le corporatisme. Ce qu'il soutient, en revanche, c'est le groupe qui se tient face à l'extérieur. Non pas dans une logique d'opposition radicale, comme le syndicat devant le patronat, mais comme un ami se tient devant un autre ami. Il se tient devant un autre, mais un autre avec lequel il va engager un dialogue, engager une conversation. Et non pas un dialogue de sourds, mais un dialogue où il accepte de pouvoir éventuellement changer dans le cadre de la discussion. Il fait face à l'altérité, il considère qu'il n'est pas détenteur de la vérité, et il fait confiance à l'autre pour éventuellement pouvoir le bousculer, le déplacer dans ses convictions. Cela, Martin Luther l'a exprimé dans une formule technique, mais que vous pouvez apprendre facilement, coram Deo, devant Dieu, se tenir devant Dieu. C'est là l'une des grandes intuitions de Martin Luther. Se tenir devant Dieu, penser notre vie, non pas en ne tenant compte que de notre point de vue, mais en se tenant face à l'autre, en confrontant mon point de vue à un autre, voire à d'autres points de vue. Celui qui se tient face à moi est traversé par des élans, est animé par des projets qui ne sont pas forcément les miens. Il y a donc de l'altérité. Et cette altérité n'est pas d'emblée forcément dénuée de vérité. Peut-être que l'autre est détenteur d'une part de vérité qui m'échappe. Celui qui se tient là, face à moi, a peut-être de bonnes raisons de résister à mon désir, de ne pas se plier à ma volonté. Peut-être d'ailleurs a-t-il raison contre moi. Celui qui se tient là est peut-être détenteur d'une part d'humanité qui me fait cruellement défaut. En fait, nous sommes l'un et l'autre détenteurs d'une part du réel. C'est là qu'il va falloir bien écouter. C'est la distinction entre le réel et la réalité. Nous sommes détenteurs d'une réalité, mais cette réalité n'est pas le réel. Nous sommes détenteurs d'un point de vue sur le monde, d'un point de vue sur notre environnement, détenteurs d'un point de vue sur nous-mêmes. Mais ce point de vue n'est que partiel, et selon la formule consacrée, souvent partial. Nous avons accès à une réalité qui n'est qu'un bout du réel. Et c'est ainsi que je vous propose d'entendre le passage de l'apôtre Paul. Nous élaborons dans notre coin une réalité qui n'a qu'un rapport plus ou moins étroit avec le réel. Nous savons les choses à partir de notre point de vue. Dans les années 70, on disait « Mais toi, d'où tu parles ?» C'était un petit peu la mise en pratique de la phénoménologie. L'observateur parasite toujours l'observation. Nous savons les choses à partir d'un point de vue qui est le nôtre, qui est un point de vue partiel, et c'est cela qui explique bien des conflits, bien des drames parfois. Les conflits sociaux, mais aussi les conflits familiaux, les conflits politiques, les conflits internationaux, qui sont souvent des conflits d'intérêts causés par un rapport partiel au réel. Nous pensons que nous avons une connaissance du réel, nous n'avons en fait qu'accès à une réalité. Et lorsque nous voulons imposer notre réalité à l'autre, lorsque nous voulons imposer notre point de vue, alors se reproduit le drame de la croix. Lorsque le Sanhédrin veut imposer sa réalité à Pilate, alors une croix est plantée en terre et un innocent peut s'apprêter à mourir. Et ce drame se répète inlassablement au cours de l'histoire. En revanche, le Christ Jésus révèle qu'en conjuguant nos réalités, nous nous approchons du réel, ce qu'il nomme le royaume de Dieu. Pour être plus juste sur le plan théologique, lorsque nous acceptons qu'une réalité autre se mêle à notre réalité, alors le réel s'approche de nous. Le royaume de Dieu s'approche. Se tenir devant Dieu, coram Deo, recevoir l'Esprit de Dieu, c'est concrètement s'ouvrir à une autre réalité que la nôtre. C'est laisser une autre réalité enrichir notre propre réalité et donc mieux apercevoir le réel. C'est faire de la place en soi à une vérité autre qui me permettra d'être plus proche de l'ultime, plus proche que je ne l'aurais été seul face à moi-même. Pour le dire avec le philosophe Paul Ricoeur, c'est une citation que vous retrouverez dans l'exposition, « Le plus court chemin de moi à moi passe par l'autre. » J'ai accès à une plus grande vérité sur moi-même, et donc a fortiori sur les autres, en passant par la réalité de l'autre, par la compréhension de l'autre, par ce que l'autre a à dire de moi-même et de sa vision du monde et des choses. Alors si c'est Jésus-Christ que Paul veut savoir à l'exclusion de toute autre chose, c'est parce que Jésus a été Christ, en ce sens qu'il a donné à voir ce qu'est le réel. Et c'est là le cœur de notre confession de foi. Jésus est Christ, en ce sens qu'il a donné à voir le réel. Non pas simplement une réalité, ce que nous faisons en Église, nous approchons, mais il y a autre chose à vivre et à découvrir que ce que nous pouvons dire, témoigner, faire. Notre confession de foi, c'est que en Jésus, le réel a été manifesté. Il a incarné le réel. Il ne s'est pas contenté de la réalité qu'il a rangée. Il n'a pas été chef de parti, il n'a pas été chef de clan, gourou. Il a proposé une voie vers le réel. Et chemin faisant, il a rapproché le réel de celles et de ceux qu'il croisait sur son chemin. Quelle que soit la condition de cette personne, quelle que soit son origine, quelle que soit la nature de ses croyances et le sens de toutes ces rencontres qui sont rapportées dans les évangiles. Et même face au Sanhédrin. Face au Sanhédrin qui était saturé de sa réalité propre. Le Sanhédrin qui était arc-bouté sur le pouvoir qu'il avait, avec un grand prêtre qui craignait d'être déstabilisé et de perdre sa qualité de grand prêtre, en plus au profit de ce Jésus qui aurait très bien pu revendiquer la place. Eh bien, même face à ce Sanhédrin, Jésus a continué à montrer le réel sous la forme d'un amour inconditionnel. Amour inconditionnel même pour les bourreaux. en refusant de répondre à la violence par une autre violence, en refusant de prendre l'épée pour échapper à l'arrestation, en refusant de risquer la mort de l'agresseur, alors qu'il avait lui aussi les moyens de se défendre et même de terrasser violemment ses adversaires, selon les propos qui lui sont attribués dans le jardin de Gethsémani. Mais Jésus ne tirera d'aucune manière sur ses agresseurs, fût-ce par la parole. Ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au fond, ce n'est pas faire de la croix un art de vivre. Ce n'est pas faire de la victimisation un fonds de commerce. Ce n'est pas opter pour le masochisme. C'est considérer que la croix est un lieu de la révélation. Et que la croix nous dit quelque chose du divin, de l'humanité véritable, que nous ne trouvons pas beaucoup ailleurs. C'est tout d'abord le fait qu'il y a ce Jésus-Christ qui est la figure authentique de l'homme authentique, c'est-à-dire de l'homme tendu vers l'ultime. Et puis la croix, c'est aussi ce qui désigne quelques limites. Cette limite à notre tentation de toute puissance, de toute domination. C'est la croix qui nous révèle que c'est dans le face-à-face avec le divin, le face-à-face avec l'autre, qu'une vérité s'élabore véritablement. Que la figure du Christ ne se rencontre qu'à travers le visage de l'autre, de celui qui se tient face à moi. Cet autre qui me fait face et qui porte mon regard, qui porte ma sagesse un peu plus loin que ce que mon seul regard m'autorise, en direction de cet horizon que l'apôtre Paul décrira quelques chapitres plus tard, dans les termes de corps glorieux, de résurrection. Amen. Le cantique 400 est une manière de s'approprier la théologie paulinienne, à la fois ne pas être imbu de soi-même et affirmer que nous avons besoin de l'autre pour pouvoir donner toute la mesure de notre existence. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 400, évidemment, nous nous levons pour cela. Nous prenons place et j'invite les cheftaines de Meute et de Route à venir pour quelques annonces. Pendant ce temps-là, je vous donne les informations relatives à notre calendrier. Un calendrier tranquille cette semaine jusqu'à samedi où nous aurons le plaisir de rejoindre le groupe d'hébreux bibliques à 10h. Cette année, c'est Ézéchiel chapitre 37 pour la partie hébreu. Et dimanche prochain, c'est le culte de rentrée officielle et c'est un culte qui nous permettra d'entendre le professeur Pierre-Olivier Léchaud qui prêchera ce jour-là. Lucie, je vous passe la parole, mettez-vous là, qu'on vous voit bien.
Bonjour à tous, je suis cheftaine Louveteau à l'oratoire et cheftaine aînée, donc je dirige un groupe d'enfants de 8-12 ans et un groupe d'enfants de 16 à 18 ans. Et nous sommes en recherche d'enfants de 8-12 ans pour commencer l'aventure avec nous parce que cette année, beaucoup passent à la tranche d'âge d'au-dessus, les éclaireurs. Et nous sommes aussi en recherche de responsables parce que nous avons peu de responsables formés. Et voilà, moi je suis là depuis 5 ans, 6 ans. La différence d'âge avec les Louveteaux commence à se sentir vraiment et c'est bien, mais voilà, le principe c'est un peu qu'il y a un rapport fraternel entre les Louveteaux et les responsables tout en ayant la distance adulte-enfant, mais cette distance, cette relation bientôt je l'aurai plus et ce serait bien qu'il y ait une nouvelle génération de responsables pour me remplacer d'ici 2 ans. Voilà. Et ça se forme, donc 2 ans, c'est bien pour se former. Voilà.
Elle sent que vient le moment où ils vont l'appeler maman. Donc, voilà, c'est important de soutenir.
Et on finance les formations BAFA, donc pour les jeunes qui veulent passer leur diplôme d'animateur, venez le faire chez nous. Voilà.
Oui, enfin, on, c'est la paroisse quand même. Hein. Ouais. Ok. Très bien. Ouais, ça montre qu'il y a une vraie proximité, mais c'est avec plaisir. Je vais également donner la parole à notre président. Encore une chose à dire ?
Désolée. Alors, le groupe de 16-18 ans aimerait partir donc en août 2014 au Kirghizistan pour un projet humanitaire et ils vendent des gâteaux dehors. Ils vous expliqueront ça mieux que moi parce que normalement, c'est à eux de le faire. Ils vendent des gâteaux, c'est pour leur projet et ils y ont mis beaucoup de, enfin tout leur cœur. Donc, soutenez-nous. Voilà.
Donc, le beurre, l'argent du beurre et la fille du crémier. Monsieur le Président, c'est à vous pour quelques annonces et communications.
Bonjour à tous. Merci de votre attention. Je salue aussi la présence du pasteur Claude Batty qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Je salue aussi la présence du pasteur Claude Batty qui nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, quelques informations. Je vais demander avant notre chef de chœur, Nicolas Burton-Page, de bien vouloir me rejoindre, car la deuxième partie des informations et des communications lui sera consacrée. Aujourd'hui, bien sûr, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Nous avons accueilli déjà beaucoup de visiteurs hier, après-midi, donc poursuite de ces journées du patrimoine, avec deux expositions que vous avez pu peut-être voir en rentrant ou que vous prendrez le temps de voir avant de sortir du culte ou après. Exposition Paul Ricoeur, la traversée du siècle, centenaire de la naissance de Paul Ricoeur, et une exposition consacrée à Albert Schweitzer, j'y reviendrai, une vie au service de la vie sous toutes ses formes. C'est dans la petite chapelle de droite en sortant et je reviendrai sur les événements d'Albert Schweitzer. À la fin du mois, le 27, 28, 29 septembre, se déroulera à Paris un événement dont on a déjà parlé, protestant en fait, qui réunira à Paris un grand nombre de protestants qui viendront des quatre coins de France. L'Oratoire du Louvre prend toute sa part à l'organisation de cet événement et se tiendront un certain nombre d'événements ici même à l'Oratoire. D'abord le vendredi, le temple sera ouvert comme pour les journées du patrimoine, ainsi que le samedi, permettant ainsi aux amis qui viendront place du Palais Royal au village des Solidarités de faire un saut jusque chez nous pour visiter d'abord les expositions. Le vendredi après-midi aura lieu la projection d'un film par deux fois sur Théodore Monod. Vous l'avez peut-être vu, c'est Une météorite dans le siècle, un film de Caroline Rössner qui sera projeté salle Monod le vendredi après-midi. Et le vendredi soir aura lieu ici un concert donné par le chœur de l'oratoire qui interprétera le Gloria et le Magnificat de Vivaldi. Et vous pourrez également entendre Philippe Müller, violoncelliste, qui interprétera des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Donc, concert qui aura lieu également le jeudi soir, pour ceux qui le veulent, au Temple de l'Étoile. Donc, vendredi, 20h30, ici, concert du chœur de l'oratoire avec Philippe Müller, violoncelliste, qui interprétera des œuvres donc, de Jean-Sébastien Bach. Le samedi, le Temple sera ouvert. Le dimanche, à 11h, notre organiste Jean-Dominique Pasquet donnera un récital d'orgue et à midi, Jean-Dominique et son collègue Aurélien Péter nous donneront un moment spirituel qui je pense sera très fort puisque Jean-Dominique accompagnera Aurélien qui dira le texte des Béatitudes. À 13h, une première table ronde sera organisée au Temple avec Olivier Abel sur « Risquer le partage ». Et d'autres intervenants, donc, à 13h. Et à 15h30, une deuxième conférence, table ronde, se tiendra ici également. Quelle espérance dans un monde marqué par la corruption et la pauvreté, avec des participants tout aussi célèbres, M. Michel Rocard, ancien Premier ministre, M. Martin Hirsch, ancien ministre, enfin il n'était pas ministre mais il était dans un gouvernement, Madame Esther Duflo, qui est expert au MIT et qui est aussi conseillère du président Barack Obama, le docteur Irène Frachon, qui a dénoncé le scandale du Mediator, pardon, qui seront participants, entre autres participants à cette conférence. Donc je crois que ce sera intéressant, notez-le dans vos agendas. Tous ces événements sont résumés dans un petit flyer, ce qui vous sera remis par un de nos collègues du Conseil presbytéral, Samuel, qui vous donnera toutes ces informations pour ces temps de conférences et de tables rondes. Le dimanche matin, à 10h30, il y aura le culte ici à l'oratoire, comme d'habitude. Il sera présidé par Marc Pernaud. Mais pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pourrez aller aussi au culte qui aura lieu au Palais Omnisports de Bercy. Pour cela, il vous faut vous inscrire et vous avez un petit flyer, ce qui vous sera également remis par Samuel, pour ceux qui le veulent, un petit flyer protestant en fait, pour vous inscrire et participer à ce culte. Ce culte sera d'ailleurs télévisé sur France 2, en lieu et place de la messe. Nos amis catholiques nous cèdent leur droit d'antenne et ce culte sera donc télévisé. Ensuite, début octobre, le jeudi 3 octobre, soirée hommage à Albert Schweitzer. Donc, un événement aussi à ne pas manquer, à 20h30. Au programme de la soirée, des lectures qui seront toutes introduites par le professeur Laurent Gagnebin, des œuvres à l'orgue, des œuvres de Jean-Sébastien Bach et de Charles Vidor qui seront interprétées par Jean Gallard, Jean-Dominique Pasquet, notre organiste titulaire, et Aurélien Péter. Des lectures de textes seront données par Yvan Garouel, qui est acteur, et des chants seront donnés par une chorale africaine, Mei Dipita Paris. Et la conclusion de cette soirée sera faite par le professeur Alain Deloche, fondateur de la chaîne de l'espoir. L'ensemble de ces lectures donc seront introduites par Laurent Gagnebin, que chacun connaît ici. Voilà, tous ces événements sont résumés sur des flyers que vous pouvez trouver à la sortie du temple. Pour terminer cette première partie d'annonce, je voudrais remercier, que ce soit pour les journées du patrimoine, pour Protestants en fait, pour cet hommage à Albert Schweitzer, toutes celles et tous ceux, tous les bénévoles qui ont donné du temps, qui ont donné du savoir, qui ont donné de leur connaissance pour réaliser, permettre la tenue de ces événements dans les meilleures conditions, qu'ils soient chaleureusement remerciés par le Conseil presbytéral. J'ai demandé à Nicolas de venir nous rejoindre. Je voudrais que notre collègue Marc, tu viennes également nous rejoindre. Vous venez d'entendre le chœur de l'oratoire dirigé par Nicolas. Et aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas tous, mais c'est la dernière fois que nous allons entendre Nicolas Burton Page diriger le chœur de l'oratoire lors d'un culte. En effet, Nicolas et son épouse, après les concerts qui seront donnés fin septembre, prendront un temps de retraite spirituelle dans une communauté, et nous savons l'attachement qu'ils accordent tous les deux à ces temps de réflexion, à cette spiritualité. Et à l'issue de cette retraite, qui durera en gros une année, eh bien, Nicolas profitera complètement et pleinement de sa retraite personnelle et professionnelle. Je sais qu'il aura une retraite très, très active. En tout cas, le Conseil presbytéral, cher Nicolas, et toute la communauté de l'oratoire tient à te remercier très fraternellement et très chaleureusement de ces 13 années passées avec nous, à travailler avec la maîtrise de l'oratoire. Tu as dispensé des conseils, ton enseignement, puisque tu es professeur aussi au conservatoire, avec beaucoup de générosité, beaucoup de patience, beaucoup de talent. Et tu as été pendant ces années un lien formidable entre la tribune, les pasteurs, l'organiste, pour animer et aussi les cultes qui se sont déroulés les uns après les autres. Tu as également participé au cours de ces 13 années au rayonnement musical de l'oratoire, puisque grâce à toi, 31 concerts de musique ont été organisées ici. Et certains nous ont marqués et ont laissé un souvenir, nous laisserons un souvenir inoubliable. Donc, je voulais te remercier très chaleureusement pour cela. Et du reste, au nom de tout le conseil presbytéral, nous voulions te donner un livre qui a été réalisé pour le bicentenaire, qui a été réalisé par Emmanuel et Fred Bronstein, qui est un livre très beau de photos de l'oratoire. Et je sais que tu regarderas certaines photos avec beaucoup d'émotion, parce qu'il y a le cœur qui a été photographié. Et je sais que tu regarderas ce livre avec à la fois peut-être un peu de nostalgie et beaucoup d'émotion. Bien fraternellement, au nom du conseil, au nom de toute la communauté, Nicolas, grand merci pour ces 13 ans et pour tous les dons que tu as faits à cette paroisse.
Merci André. Est-ce que je maîtrise le micro? Vous m'entendez? D'accord. La dernière fois ici, je crois que personne n'a rien entendu quand j'avais cette machine devant la bouche. C'est mon tour maintenant de dire un grand, grand merci à la paroisse pour ces 13 années passées avec vous. Un temps de grande richesse. Et je crois que je vois mes choristes tous me guetter là-haut et je voudrais leur dire aussi un énorme merci pour ces années que nous avons passées ensemble. Nous avons de bons souvenirs et maintenant nous allons accueillir l'avenir. Nous allons accueillir l'avenir sans crainte. Pour moi personnellement, ce début de retraite, il s'agit avec Sabine, mon épouse, de me mettre carrément devant le mystère du Christ, de me taire un peu et d'essayer de me rendre disponible pour la suite, quelle soit. Alors, je ne pense pas que tout d'un coup je deviendrai non-musicien, mais quelque part, une reconnaissance que la musique est tout de même et malgré tout secondaire à ce mystère-là et ce silence-là. Tout comme la théologie est secondaire à la vie de foi qui l'embrase, comme la théorie est secondaire à la pratique qu'elle est censée observer, hein, et que même le langage est secondaire à ce qui le précède. Voilà, frères et sœurs, priez pour moi. Et nous allons accueillir l'avenir dans la joie du Christ, ensemble. Merci.
Une autre information concernant le chœur, c'est le décès de Monique Marché, qui était choriste depuis 1954. Et ses obsèques auront lieu mercredi à 14h30 à Notre-Dame de Lorette. C'était finalement l'une des doyennes du chœur. Juste un petit retour sur Protestant, en fait, pour dire qu'il y aura aussi les stands Évangile et Liberté, publicité gratuite. Vous pouvez nous rejoindre au parc de Bercy pour voir votre revue préférée et les auteurs que vous avez l'habitude de lire. À la sortie du temple se tiendra également Christiane Guttinger, qui est l'un des deux auteurs du livre sur les temples de Paris. Donc vous pourrez non seulement acheter le livre, mais en plus le faire dédicacer, ce qui augmente sa valeur intrinsèque. Je finis en vous disant qu'il y a également le DVD de Théodore Monod, dont André vous a parlé, qui est à la vente auprès de Jean-Claude au comptoir librairie. Et c'est maintenant, enfin, après toutes ces paroles, le temps d'agir, effectivement. C'est le temps de l'offrande. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, toi qui nous conduis à la vie véritable, au réel, donne-nous de vivre continuellement de ta puissance vivifiante. Aide-nous à ne pas seulement compter sur nos propres forces, notre propre intelligence des situations. Ainsi que le Christ Jésus le fit pour ceux qu'il a rencontrés, donne-nous de la force lorsque nous en manquons. Et pousse-nous à stimuler ceux qui sont en panne. Pousse-nous à donner la parole à ceux qui en sont privés. Toi qui es le lien d'unité qui transcende tous nos particularismes, toutes nos singularités, donne aux dirigeants de nos communautés de foi un zèle inébranlable dans leurs efforts pour l'unité. Intensifie nos prières afin que nous soyons en mesure d'ouvrir de nouveaux chemins d'unité, que nous puissions révéler d'autres façons d'être ensemble et que nous puissions mettre en évidence le bien commun vers lequel nous devrions tous être tendus. Oui, toi qui nous conduis à la vérité ultime en nous sortant de nos réalités imparfaites, inspire tous ceux et celles qui exercent des fonctions de gouvernement. Accorde-leur la volonté de veiller aux besoins des pauvres, des petits, des faibles, des sans-voix. Et garde-les de la corruption et des intérêts partisans. Nos prières, nos désirs, nos pensées, nos vœux, nos craintes, nos interrogations, nous les rassemblons dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Une exhortation extrêmement facile à réaliser, c'est la pédagogie du succès. En sortant, laissez vos recueils de chants sur place, sur votre chaise. Ne les emportez pas pour essayer de les ranger. Ça, c'est une exhortation facile. Recevez aussi l'assurance que Dieu cheminera avec nous tout au long de cette semaine. Oui, frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte sur nous son regard et nous accorde sa grâce. Vers nous, il tourne sa face et nous donne sa paix. Amen.